L'EM continue de vous faire connaître l'association Temps Partagé. L'association quimpéroise s'investit pour aider les jeunes réfugiés. Un troisième volet aujourd'hui dédié aux problématiques de scolarisation. Et nous sommes avec Caro. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour reposer les bases, pour mieux connaître l'association Temps Partagé, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler les objectifs de l'association ?
Alors, l'association Le Temps Partagé a pour objectif de tendre la main, d'accompagner humainement les mineurs non accompagnés, qu'on appelle aussi les mineurs isolés étrangers, qui arrivent sur le secteur du Finistère, plutôt autour de Quimper, de leur proposer un hébergement quand ils ne sont pas pris en charge par le département, de leur proposer une ouverture sur tout ce qui va être culturel, aussi bien sportif, découverte de différents champs de connaissances, et puis un accompagnement, un soutien scolaire aussi. Et on veille aussi à tenter de faire respecter leurs droits en matière de tout ce qui est juridique.
Parce que derrière tout cela, les nombreux problèmes posés à ces jeunes sont de fait causés par des choix administratifs, si on comprend bien.
En fait, la prise en charge de ces jeunes au niveau national est pleine de disparités en fonction des départements et des secteurs. C'est assez troublant. Donc, les institutions ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière en fonction de la région, du département où on se trouve. Sur Quimper, il y a une mise à l'abri quand les jeunes arrivent systématique par le département et une procédure d'évaluation qui se met en place.
Et c'est là qu'on détermine leur âge, en fait.
Oui, c'est là qu'on détermine leur âge. Pas vraiment, on détermine si on pense qu'ils sont plutôt mineurs ou plutôt majeurs. Quels que soient les documents qu'ils puissent présenter. Il y a une enquête sociale qui se résume en deux entretiens en général pour qu'ils exposent un petit peu leur parcours. Donc, qu'ils aient des papiers ou pas, les papiers, c'est quand même beaucoup mieux. Mais il y a des jeunes qui sont reconnus mineurs sans aucun papier, d'autres jeunes qui ont même un passeport et qui ne sont pas reconnus mineurs. Donc cette procédure, entre le moment où ils arrivent sur le secteur géographique et où ils sont soit pris en charge par l'ASE, soit l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est le CDAS qui gère
c'est
ça.
C'est au département.
C'est le département, ouais, voilà. Et entre le moment où ils arrivent et le moment où soit ils sont reconnus mineurs, soit pas reconnus mineurs ou en attente de reconnaissance de minorité, c'est-à-dire en général sans avoir vu le juge des enfants, eh bien, il peut se passer de 4 mois maintenant, c'est plutôt ça, 4 mois à, on a vu encore il y a un an, des jeunes qui pouvaient rester 3 ans en attente.
C'est des temps longs par rapport à des âges, finalement, on peut passer d'une situation à une autre, de mineur à majeur, finalement.
Ah bah c'est très très long, oui, puisqu'ils arrivent en général dans leur 16e année, un peu avant ou un peu après. Il y en a des plus jeunes, hein, mais bon, pour ceux-là, ça fait en général pas trop de doutes, ils sont mis en foyer et pris en charge. Mais pour ceux qui arrivent, oui, à 15, 16 ans, voire 17 ans, c'est des temps qui sont très longs. On part sur un véritable compte à rebours, en fait.
Parce qu'il y a deux bascules, en fait. Il y a l'âge qui fait qu'on passe de la minorité à la majorité, et puis il y a un autre aussi qui est important en France, c'est l'âge de scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans. Ça l'est donc aussi, forcément, de facto, pour ces jeunes migrants qui...
Oui, puisqu'il y en a qui arrivent avec des documents d'identité et actes de naissance et autres et qui n'ont pas 16 ans, mais qui passent quand même, qui ne sont pas scolarisés automatiquement. Et qui doivent, même au niveau du département, quand ils sont gardés, ils doivent passer des tests CIO.
C'est-à-dire CIO ?
C'est le centre d'information et d'orientation. Tous les jeunes français y ont accès. Mais là, en général, avant 16 ans, on n'a pas à passer par le CIO puisque la scolarisation est obligatoire. Donc ça repousse encore les délais. Voilà.
Donc une situation kafkaïenne. Je pense que pour beaucoup de ces jeunes migrants, je pense que c'est le terme qui est peut-être adapté. On va essayer de connaître un peu peut-être aussi ces jeunes migrants, puisque vous êtes à leur contact. Quelles sont ces aspirations de ces jeunes en intégrant le système éducatif français?
Alors, on remarque, au niveau national, on remarque, sur la Bretagne aussi, que c'est assez nouveau. Il y avait, les jeunes avant arrivaient pour fuir, et puis pour fuir soit des soucis familiaux, soit des problèmes de conflit, etc. Mais ils fuyaient. Là, maintenant, il y a une grosse demande, une volonté vraiment éducative, de formation, parce qu'ils prennent conscience que c'est très important. Il y en a une partie non négligeable qui fuit aussi parce qu'ils ont eu la chance d'être scolarisés un petit peu et les accidents de vie font qu'ils ont été déscolarisés obligés de faire des choses qu'ils ne souhaitaient pas faire et ils voulaient continuer leur formation. Mais c'est une grosse demande pour eux.
Oui. Vous savez, j'imagine, les filières qui sont sollicitées par ces jeunes?
Alors, les filières qui sont sollicitées, en général, il y a tout ce qui est du domaine du bâtiment, tout ce qui est cuisine aussi, puisqu'ils découvrent en France qu'il y a une formation pour tous les métiers de bouche, ce qui leur paraît un petit peu insolite, mais ils ont entendu parler de la cuisine française, ils cuisinent tous un petit peu, donc même pour les métiers du bâtiment, ils découvrent que ça s'apprend, ils se retrouvent un petit peu dans ces filières-là. Il y a tout le domaine de l'horticulture qui leur est un petit peu étranger, mais il y a des possibilités aussi, avec certains des établissements, de les scolariser. Donc, il y a aussi des affectations un petit peu par défaut. C'est pas ce qu'ils veulent, c'est être formés. Et puis, pour le temps partagé, ce qui est important aussi, c'est qu'ils... Pour nous, c'est essentiel qu'ils soient scolarisés.
Est-ce que vous pouvez nous témoigner de quelques parcours? Parce que tu en partageais une belle expérience d'accompagnement de ces jeunes aussi. Il y en a peut-être quelques-unes que vous pouvez nous faire partager.
Oui, c'est vrai que t'en partageais tout à l'heure, quand j'ai présenté l'association, j'ai parlé d'éducation, etc. Mais c'est vrai qu'on se donne pour objectif de scolariser tous les jeunes qu'on prend en charge, c'est-à-dire 40 à la rentrée et là, maintenant, 25, par un jeu de reconnaissance de minorité depuis la rentrée. Il y a pas mal de jeunes qui ont été reconnus mineurs, donc qui ont été scolarisés par l'association et qui poursuivent maintenant leur scolarisation sans qu'il y ait eu d'interruption et sans qu'ils aient raté la rentrée. Et puis, il y en a d'autres qui poursuivent leur parcours. Des parcours terminés, il n'y en a pas beaucoup. L'association est assez récente. Je peux donner l'exemple d'un jeune qui est arrivé à 15 ans, qui a été très vite mis à la rue. Il a été dirigé vers le CDS et a été mis dehors tout de suite. C'est une membre actuelle du temps partagé qui l'a recueilli. Il n'avait jamais été à l'école, au champ, en Côte d'Ivoire, depuis ses 5-6 ans. Pris en charge par sa grand-mère et qui avait fui au décès de sa grand-mère. Et il était totalement analphabète et il a obtenu son CAP à la fin de l'année scolaire dernière, en aide à la personne, avec mention bien. Donc, c'est-à-dire qu'en très très peu de temps, il a appris à la fois la langue orale, parce qu'il parlait de Bambara, et l'écrit et la lecture, et fait l'admiration de tous les gens qui l'ont accueilli en stage pendant sa formation.
Et c'était les services à la personne qui l'intéressaient?
Oui, ça c'était un choix vraiment, oui, c'était les services à la personne. Et il est prêt à tout faire, il donne des coups de main à tout le monde, donc il a appris plein de choses, même dans le domaine du bâtiment, etc. Et s'être intéressé dans son quartier, etc., autour de chez son hébergeuse, à des chantiers, etc., il est prêt à faire plein de choses. Voilà. Donc il a un passeport maintenant, il n'a pas été reconnu mineur, ce jeune. Il n'a pas été non plus reconnu mineur en appel, il a gagné en cassation, mais malheureusement, ça n'a rien changé pour lui parce qu'il avait atteint l'âge de 18 ans à ce moment-là. Donc il est en attente de titre de séjour, ce qui est très compliqué sur le...
Qu'est-ce qui pourrait aider à ce titre de séjour ?
Que la préfecture accepte de lui délivrer un titre de séjour.
Mais par une embauche qui est au préalable ?
Il a une promesse d'embauche... Mais donc il a dû...
Donc ça ne suffit plus.
Ça ne suffit pas. Il a l'obtention, il a un passeport qui a été jugé document de voyage et pas pièce d'identité. Il a fait revenir des documents. Il a été scolarisé, il a été assidu, ont été épluchés ses relevés de notes, bulletins semestriels. Il a obtenu son diplôme, il a une promesse d'embauche, mais il n'a toujours pas obtenu de titre de séjour.
Bon, on est sur les difficultés administratives, quelque part.
Oui.
On est en plein dedans. Donc il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a toutes ces bonnes volontés. Il y a la vôtre, celle de temps partagé, et puis il y a aussi celle des chefs d'établissement qui jouent parfois le jeu aussi.
Oui, alors les chefs d'établissement... jouent parfois le jeu, oui, parce qu'ils estiment que quand leurs classes ne sont pas complètes, ils peuvent accueillir d'autres jeunes, c'est mieux pour eux. Et ils estiment qu'ils ont une mission éducative et que c'est normal que ces jeunes bénéficient de formation. Maintenant, il y a au niveau de l'institution quelques pressions et... pour ne pas les inscrire systématiquement. Donc c'est en leur âme et conscience qu'ils le font. Souvent, ce sont des gens qui ne sont pas forcément en début de carrière qui prennent ces décisions.
Est-ce que vous avez des retours de terrain de ces proviseurs qui vous partagent un petit peu... une fois que vous suivez quelqu'un à temps partagé, vous avez des retours sur son évolution au sein de l'établissement, de ses relations avec les élèves du CRU, quoi.
Alors, évidemment, oui, parce que quand on suit un jeune au niveau au temps partagé, on lui trouve une famille hébergeante, enfin une famille, un hébergeant solidaire. On lui affecte une référente au niveau pour sa scolarité, c'est-à-dire qui fait le lien entre la famille et l'établissement et l'association. On peut aussi, cette année ça s'est mis en place, il y a des cours de soutien pour les devoirs le soir qui sont organisés, et aussi des bénévoles qui, dans certains établissements qui sont OK pour le faire, qui se déplacent dans les établissements sur les temps d'études, par exemple, pour donner des cours, enfin pour les aider. Et donc on a évidemment des retours, on consulte les bulletins les résultats, et quand il y a des soucis, on se déplace dans les établissements pour régler le problème. Ce sont des ados, il y a des fois quelques petits soucis, mais en général ils sont très bien accueillis dans les établissements où ils arrivent, parce qu'ils changent, en fait, c'est un atout pour les classes, les enseignants le disent, ils changent le profil clairement des classes. C'est-à-dire qu'ils
sont... Ça apporte peut-être un peu de maturité ?
C'est pas forcément une question de maturité, parce qu'ils ont le même âge que les autres, donc ils ont un parcours, oui, une maturité dans le sens où ils ont un parcours qui fait qu'ils savent ce qu' ils font ici, en fait. Il y a beaucoup de petits Bretons qui sont dans ces classes-là parce qu'ils ont éventuellement échoué dans d'autres filières, malheureusement, parce que on a besoin de ces jeunes diplômés qui vont pouvoir aller prêter main forte aux artisans qui sont en demande vraiment sur le secteur. Mais c'est pas toujours très très bien vu, enfin c'est pas très très valorisant des fois d'être en CAP. Il y a des jeunes qui font ça parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose, ou parce que voilà, ils sont là, il faut qu'ils soient là, et ils sont pas tellement investis. Il y en a pas mal qui ont peut-être des fois échoué dans leur parcours et qui ne voient pas cette formation comme la chance de leur vie, alors que les nôtres, oui, c'est vraiment ça.
Vous avez évoqué les cours offerts par les bénévoles de temps partagé.
Oui.
Comment ça se passe ? Combien de temps ça prend ? Vous avez parlé de j'ai oublié son prénom, du petit gars qui est parti faire service à la personne.
Abdou.
Eh bien, il a appris le français en combien de temps et...
Bah ça, c'est très très variable.
Et en de fait, quelle manière, en fait?
Oui, bah c'est un petit peu comme les petits enfants qu'on a à la maison et qui apprennent à parler. Il y en a qui ne disent rien, qui écoutent et un jour ils parlent. Il y a ceux qui sont très bavards et en général ceux qui sont très bavards, ils apprennent plus vite, mais pas toujours. Enfin, ça dépend vraiment. Donc c'est vrai que le fait d'être dans des familles, ça les aide beaucoup parce qu'on ne parle que français. Donc il n'y a pas d'alternative. Ils ont leur langue et bon, il y a aussi les jeunes qui viennent de Guinée, bon qui a priori, on dit qu'ils parlent français, ils s'imaginent qu'ils parlent très bien le français, ils se rendent compte que finalement ça leur joue des tours, notamment dans leurs démarches administratives et lors des entretiens avec soit le département, soit avec... ça leur joue des tours parce qu'ils pensent avoir compris, il y a plein de subtilités qu'ils ne comprennent pas, donc c'est vrai que c'est très variable, il y a une volonté puis il y a une facilité... On est bon, on n'est pas bon en langue. C'est vraiment une langue étrangère, quoi. Mais c'est vrai que dans les établissements sont mis en place des cours de FLE. En général, il y a vraiment...
Pour français langue étrangère.
Français langue étrangère, c'est ça. Nous, on les reçoit, tous ceux qui sont disponibles et volontaires. Il y a des cours, on a une salle sur Quimper. Et il y a des cours qui sont proposés le soir après l'école pour ceux qui sont scolarisés, en après-midi pour ceux qui sont même parfois pas encore mis à la rue, mais au département depuis des semaines voire des mois et qui n'ont toujours pas été scolarisés. Donc ils ont la possibilité de venir. En général, c'est un bénévole pour un enfant.
Je me demandais si ces jeunes aussi avaient la possibilité aussi de vivre en internat. Parce que pour la sociabilisation, pour connaître l'autre aussi, est-ce qu'ils ont cette possibilité?
Alors, le frein, c'est juste le budget de l'association, puisque ça a un coût. Mais cette année, oui, on a pas mal de jeunes qui sont en internat, notamment à Plébin.
Alors la scolarité, c'est une chose. Pendant cette scolarité, il y a aussi la possibilité pour les filières qu'ils empruntent de faire des stages. Est-ce que les jeunes migrants trouvent justement ces stages sans difficulté? Est-ce que les entreprises sont demandeuses?
Alors, pour l'instant, les jeunes ont... Il y a pas mal de stages dans ce type de formation. Les jeunes ont trouvé tous un stage. C'est par un mouvement de solidarité. Et puis les artisans, enfin les professionnels qui ont accueilli... alors je crois qu'on peut vraiment généraliser, bon il y a peut-être des exceptions, mais les professionnels qui ont accueilli une fois sont époustouflés par leur aptitude à apprendre, leur envie d'apprendre, ils sont des acharnés au boulot... Donc, il y en a beaucoup qui souhaiteraient, même après un stage ou deux, les prendre comme apprentis. Mais bon, ça, c'est... On sort du cadre de la scolarisation, là, et c'est un autre chemin de croix.
Et on retourne sur la problématique de la question administrative. Alors, temps partagé a été reçu au Sénat, très récemment. L'association donc Capéroise Temps Partagé au Sénat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte de cette visite au Sénat?
Oui, alors l'association a été contactée par l'association Parole d'Hommes et de Femmes, qui a une vocation d'écrivain public en fait, et qui a commencé une étude en 2017 sur justement l'accueil des jeunes migrants.
D'accord, écrivain public, c'était pour...
Bon, c'est-à-dire qu'il rencontre des groupes de population et ils rédigent des documents, et ils ont des thèmes d'étude, ça peut être intergénérationnel, ça peut être différents groupes sociaux. Bon, là, c'était le cadre, le Sénat, on était invités là. Cette association a eu des subventions du ministère de l'Éducation nationale, ça s'est déroulé au Sénat, et lors de cette rencontre, il y avait des élus, enfin, il y avait des sénateurs, il y avait des...
De tous bords.
J'espère. Ils ont.
Il y avait des sénateurs. Le Sénat normalement à droite.
Oui. Bon, mais qui était présent, intéressé. Il y avait des représentants d'institutions. Hein. Il y avait un représentant du CASNAV de la région de du Nord, enfin de Lille. Il y avait un responsable du d'un CDAS, pas celui du Finistère, Quimper, mais qui était venu là, bon, pour apporter leur témoignage et puis pour aussi s'informer, je pense. Et il y avait énormément d'associations de tout le territoire, hein, de Grenoble à Marseille, à Bordeaux. À
C'était une occasion de confronter un petit peu vos situations et les différences
oui,
qui se
voilà,
vivent en local.
Donc, quoi. On avait été un petit peu ému au moment où on a été contacté. Moi, c'est Anaïque qui est bon. Elle a été contactée dans le cadre de sa mission au sein de l'association de mission scolarité et commission scolarité. Et c'est un petit peu pour avoir notre expertise en termes de scolarisation des jeunes, quoi, parce qu'on le faisait systématiquement.
C'était une occasion aussi de, pas de mettre en avant, mais aussi de montrer vos savoir-faire aussi. Parce que vous l'avez évoqué, mais ces petits jeunes, c'est bête à dire, mais à un moment donné, il y a une évaluation, au final, il y a un diplôme, et les résultats sont super bons.
Oui, les résultats sont super bons, donc ça, on a pu, faire part de notre expérience, des résultats, de notre espoir que ça devienne plus facile avec le CASNAV, nous, à notre niveau, et alors, le CIO à Quimper.
Qu'est-ce que c'est, CASNAV ?
Le CASNAV. Alors, le CASNAV, c'est le centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés.
D'accord.
Ça concerne aussi tous les enfants qui ont des parents qui sont itinérants, en fait. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a des départements, où le CASNAV fonctionne main dans la main avec des associations qui préparent le terrain, en fait. Nous, c'est vrai on s'est donné comme objectif d'alphabétiser ces jeunes-là et de les préparer. Et à Lille, par exemple, à Grenoble, il y a des associations qui font ça aussi, mais en collaboration avec le CASNAV. Au niveau, nous, toutes nos demandes et nos sollicitations sont restées sans réponse.
Les grandes directives sont décidées à l'échelle nationale sur la problématique et l'accueil des jeunes migrants. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de disparités ?
Une interprétation des demandes. Maintenant, au niveau national, il est clair que les mineurs non accompagnés ne sont pas forcément...
une priorité, quoi.
Oui, puis ils sont plutôt gérés au niveau du ministère de l'Intérieur qu'au niveau d'un ministère qui serait plus adapté, comme celui de l'Éducation nationale ou de la Solidarité.
Vous espérez des suites de ces différentes rencontres que vous avez pu avoir au Sénat ?
Oui. Enfin, on espère des suites. On a pris beaucoup de contacts, c'est-à-dire que nous, on est un petit peu... comme d'autres associations qui étaient là, mais c'est vrai qu'on a pris des contacts avec des grosses associations parisiennes ou de la région parisienne, avec qui ont d'autres moyens, qui sont aussi sur place, d'autres expériences avec un nombre de dossiers beaucoup plus important, comme l'association Timi qui a géré des centaines de jeunes, donc des expériences différentes, oui. Et puis, on a pris connaissance d'outils qui étaient possibles d'utiliser. Bon, il faut avoir en général des moyens numériques, donc des accès Internet, etc. Donc, il y a le Centre des abeilles à Quimper qui nous a confié des ordinateurs. Maintenant, on essaie d'obtenir une connexion Internet. Bon, il y a tout ça, il y a toujours du boulot, hein.
Merci beaucoup, Caro, d'être venue jusqu'à nous pour évoquer toutes ces questions d'accueil des jeunes migrants dans nos établissements scolaires. Et puis on se dit une prochaine fois pour une prochaine émission.
Oui, est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose ? Non, pas une information. Je voulais dire que je voulais citer le recteur de la région Bretagne qui, pour ses vœux à l'horizon 2025, a cité Jean Guénaud. et en disant « le rêve d'une humanité nouvelle ne peut partout commencer que dans une salle de classe ». C'est vrai aussi pour les mineurs non accompagnés.
Ben c'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup.